Bonjour à tous et bienvenue sur Science, Sport, Endurance. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast en compagnie de Jean-Benoît Morin. Donc Jean-Benoît est un chercheur en sciences du sport et notamment spécialisé en biomécanique et en profilage force-vitesse pour les disciplines explosives comme le sprint.
Salut Jean-Benoît, tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation pour le podcast. Comment tu vas ?
Salut, et bien merci de m'avoir invité, ça va très bien. On attaque une petite période de vacances et de Jeux Olympiques là, donc c'est l'idéal.
Ouais, c'est sûr que les Jeux Olympiques c'est une sacrée période pour tout amateur de sport et en plus quand ça tombe pendant les vacances.
Ouais, et quand il y a un décalage horaire.
C'est vrai que c'est pas le plus pratique. Pour regarder le triathlon hier, c'était un peu compliqué. Moi, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es docteur en sciences du sport et spécialisé en biomécanique, notamment pour tout ce qui est sprint, sport collectif. Est-ce que tu peux un peu nous décrire ton parcours pour en arriver là, que ce soit au niveau sportif, pratiquant, ou à l'université, scolaire?
Ouais, avec plaisir. Alors le parcours de sportif pratiquant, c'est un parcours assez classique. J'ai fait du football jusqu'à 18 ans. J'ai bifurqué après sur l'athlétisme et le demi-fond. Et puis j'ai fait quand même presque une dizaine d'années de 400 mètres haies. Et puis derrière, j'en avais un peu marre de l'athlé et c'était trop prenant avec les études. Donc je suis allé m'amuser un peu, faire du basket. Et puis en vieillissant, j'ai bifurqué vers des sports co. Faire des sports individuels, pardon, cyclisme et triathlon en compète. Et puis là, depuis quelques années, j'essaye de faire un peu de tout, mais vraiment hors compète. Donc, musculation, toujours un peu de sprint, une fois par semaine, obligatoire, quoi qu'il arrive. Et le parcours universitaire, bon, j'ai fait une licence entraînement sportif et un master à Besançon, là d'où je suis originaire. Et puis après, j'ai fait une thèse de doctorat à Saint-Étienne, en suivant un de mes professeurs qui était actif en biomécanique là-bas, une thèse sur le sprint et sur des méthodes pour quantifier le sprint sur le terrain, la mécanique du sprint sur le terrain. Après, j'étais recruté comme maître de conférence une dizaine d'années à Saint-Étienne. Je suis allé 6 ans à Nice pour une promotion sur un poste de professeur, essentiellement. Et je suis revenu à Saint-Étienne, donc au LIBM, le labo interuniversitaire de biologie de la motricité, qui est un gros labo à Saint-Étienne, et le département STAPS, dont je vais être le directeur à partir du mois de septembre. Donc voilà un peu le parcours universitaire sport. J'ai un diplôme de alors à l'époque c'était des brevets d'État en athlétisme, donc un diplôme d'entraîneur. Et puis j'ai à peu près 10%, 15% de mon temps où j'ai une activité de consultance, c'est-à-dire qu'en fait je suis conseiller scientifique sur de l'entraînement, de l'évaluation auprès d'athlètes ou de structures de sport de haut niveau.
Ah, c'est super intéressant et puis surtout travailler dans sa passion, enfin allier travail, passion, c'est quand même une belle chose. Et justement auprès de ce que tu dis là, les clubs ou les équipes que tu travailles en tant que consultant, comment ça se passe et c'est quoi ton rôle et c'est quel type de structure exactement, des équipes pro, etc.
Ouais, alors c'est essentiellement des structures professionnelles ou des structures universitaires américaines, donc qu'on peut assimiler en termes de structuration et de moyens à des clubs pro très clairement. Et donc en fait, ça fonctionne sous deux aspects. C'est soit du conseil scientifique, c'est-à-dire que les gens me contactent et puis on discute avec les staffs. Alors parfois je me rends sur place, parfois on discute à distance de pas mal de choses, de l'application de la recherche, de l'application de nos recherches souvent. Des conseils en termes d'entraînement, des conseils aussi en termes de mise en place de protocoles de mesure quand des clubs veulent passer à eux-mêmes en interne faire des études de type scientifique, ben ils veulent un peu de conseils là-dessus. Donc ça peut être à la fois, ça peut être vraiment très varié comme conseil. Des fois on me demande juste mon avis sur un nouvel appareil, etc., etc. Et c'est assez riche parce que bon, à chaque semaine j'interagis avec des structures. Alors c'est beaucoup aux États-Unis, en Angleterre. Mais il y en a aussi en France, ailleurs en Europe. C'est très aléatoire. Il y a souvent beaucoup d'activités en préparation des saisons ou juste après des playoffs, quand les staffs se posent un peu en se disant bon qu'est-ce qu'on met en place l'an prochain, etc., etc. Donc c'est assez riche et c'est assez pluriel.
Ouais, j'imagine que quand tu travailles avec une une université aux États-Unis, le budget doit être décuplé par rapport à ce que tu peux connaître en France.
Oui, c'est absolument pas le même système. De toute façon, en France, à part des laboratoires de recherche, il n'y a pas d'université en France qui manage du sport de haut niveau comme aux États-Unis. C'est un autre système, c'est incomparable. Et puis, il y a aussi une grosse activité avec eux, c'est de l'enseignement. C'est-à-dire que on a souvent des séminaires de formation où, en fait, je fais des cours sur certains points très spécifiques de nos recherches. Quasiment les mêmes cours que je fais à mes étudiants de master ici à Saint-Étienne, hein, mais aux entraîneurs de l'université d'Oregon ou de l'université je sais pas, de Texas Tech ou voilà, des grosses facs qui gèrent du sport de très haut niveau. C'est-à-dire que le sport universitaire américain, si on prend l'athlétisme ou le football ou des choses comme ça, c'est du très haut niveau.
Ouais, ça doit être des sacrées expériences de pouvoir aller là-bas et d'intervenir dans des universités de cette taille. Et justement, par rapport à ton rôle de chercheur à l'université en France, tu peux rentrer un peu dans le détail dans quoi ça consiste et sur quoi portent tes recherches?
Alors mon rôle actuel, je suis entre guillemets un chercheur senior, c'est-à-dire que je génère des projets de recherche. Et alors je fais encore de la recherche un peu moi-même, mais maintenant j'ai surtout un rôle d'organisateur de recherche. C'est-à-dire que autour d'une idée de recherche, ben on génère un projet, on trouve des financements, on recrute des étudiants qui vont faire eux la recherche en doctorat ou en post-doctorat. Et donc je pilote comme ça environ 6 programmes ou je copilote 6 programmes de thèse de doctorat. Le thème actuel, c'est essentiellement autour du sprint, du risque de blessure. J'ai un étudiant, par exemple, qui va commencer sa thèse, qui est à l'université d'Indiana et qui est le préparateur physique de l'équipe de foot américain. Et il va attaquer sa thèse sur le lien entre la technique de course en sprint et le risque de blessure. Est-ce qu'on peut réentraîner la technique de course pour éventuellement courir avec moins de risques par rapport aux muscles ischio-jambiers? Et puis, on a une grosse thématique autour du pied qui va être menée à Saint-Étienne, qui est menée par 2 doctorants, à savoir est-ce que les muscles du pied, la musculature pied-cheville joue un rôle dans la performance sportive? Et est-ce qu'elle joue un rôle aussi, est-ce qu'on peut l'entraîner? Et est-ce qu'elle joue un rôle dans l'autonomie chez la personne âgée, chez la personne vieillissante? On est en train de se poser un peu la question de l'importance fonctionnelle d'avoir des pieds musclés pour hyper résumer les choses.
D'accord. Donc les disciplines sportives sur lesquelles vous vous intéressez, c'est quasi uniquement du sprint en athlétisme ou des sports co avec du sprint comme le foot, le basket, etc.
Oui, exactement. Je résumerais ça autrement. Je dirais toutes les disciplines dans lesquelles il y a des mouvements explosifs, saut ou de sprint. Donc, ça peut rentrer aussi le basket, le handball. On est en train de planifier des programmes de thèse avec un club de handball de très haut niveau. Du hockey sur glace aussi. Alors, historiquement, j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur la course d'endurance, sur le trail running, par exemple. Mais là, pour l'instant, ces recherches, c'est plus des collaborations que je maintiens que des choses que moi j'impulse. Oui, on est vraiment centré là sur les disciplines explosives.
D'accord. Justement, le domaine des sports d'endurance, on va le développer un petit peu après. Et donc, tu travailles notamment au niveau du profilage force-vitesse. Alors, pour commencer, pour dire à ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux un peu nous définir ce que c'est et comment ça marche, comment tu procèdes pour réaliser le profilage force-vitesse?
Oui, alors globalement, ce qu'on a appelé nous le profil force-vitesse. On pourrait l'appeler aussi la relation force-vitesse ou le spectre force-vitesse. C'est tout simplement ce qui caractérise nos muscles. Le muscle humain est pas capable de produire le même niveau de force à différentes vitesses de mouvement et vice-versa. Et ça, tout le monde le sait parce que vous savez tous très bien que si vous soulevez une charge très lourde, vous ne pourrez pas la soulever très vite et vice-versa. Et simplement, l'idée de faire le profil force-vitesse de quelqu'un dans une tâche donnée, par exemple en saut ou en sprint ou sur des lancers, c'est d'essayer de quantifier cette capacité de force à différents niveaux de vitesse. Parce qu'en fait, il y a une chose qui est fondamentale, c'est que d'un individu à l'autre, la capacité de force varie avec la vitesse. Ça, c'est ce que j'ai dit précédemment, mais elle varie de façon différente. Pour faire très simple, il y a des gens qui, pour des niveaux de vitesse très bas, seront capables de produire beaucoup de force, d'autres un peu moins, et inversement. Et donc, ce qui est passionnant, c'est que c'est pour ça qu'on a appelé ça profil, parce que l'idée de profiler quelqu'un, c'est d'essayer de voir comment votre profil est différent du mien ou différent de celui d'un coéquipier. Donc l'idée, c'est qu'on va faire des mesures de force et de vitesse dans différentes situations qui vont devoir souvent mobiliser différentes charges pour établir par des mesures ce profil force-vitesse. Et la caractéristique mathématique de ce profil, c'est qu'en fait, c'est une relation linéaire, c'est une courbe droite, inverse, qui va de la force maximale, ce qu'on appelle souvent le 1RM dans la musculation, jusqu'à la vitesse maximale. Alors, nos études se sont essentiellement penchées sur le saut vertical et le sprint, mais il y a d'autres études dans la littérature qui ont évalué du force-vitesse en poussée, du force-vitesse en tirage, etc., etc. Et sur cette base-là, c'est un peu ce qu'on fait au club de rugby de Grenoble, on va être capable de mieux identifier les caractéristiques physiologiques de chaque athlète. Et l'idée derrière la tête, c'est, sachant ça, de mieux orienter son entraînement. C'est exactement comme ce qu'on appelle la médecine individualisée, c'est-à-dire mieux profiler votre caractéristique personnelle en tant que patient pour essayer de vous donner pour une même maladie ou un même objectif thérapeutique des choses légèrement différentes. Voilà, c'est un peu c'est ça qu'on appelle l'individualisation. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de l'entraînement, prenez, je sais pas, d'un rugbyman qui va être similaire à d'autres, mais sur le point physique, on estime qu'il y a des choses qui peuvent être un peu individualisé. C'est toute l'idée de ce profil force-vitesse.
Et donc, en grossissant un peu le phénomène, ce que tu vas obtenir avec ça, ça va être des athlètes qui vont être catégorisés soit plutôt avec un profil force, d'autres avec un profil vitesse, et certains un peu un mix au milieu.
Oui, c'est un peu l'histoire. En fait, à partir du moment où le profil, son expression mathématique, c'est une ligne droite avec un extrême en force qu'on appelle F0, un extrême en vitesse qu'on appelle V0, bah, on va pouvoir en fait grader tout le monde. Et si vous mettez une même équipe de rugby, admettons, je sais pas, un groupe de rugbyman, 30 joueurs, sur un graphique, vous allez avoir effectivement, une étendue de valeur sur la force maximale, une étendue de valeur sur la vitesse maximale. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des groupes. On va faire des groupes, on va dire en gros, le premier tiers, le tiers le plus élevé en force, le tiers médian et le tiers bas en force. Pareil sur la vitesse, pareil sur un ou deux autres critères si on s'intéresse au sprint. Et à la fin, quand vous avez rangé une trentaine d'athlètes sur trois ou quatre ou cinq critères biomécaniques différents, ben vous avez des petits clusters, vous avez des petits groupes d'athlètes qui ont des caractéristiques similaires un peu entre eux, et vous allez pouvoir commencer à individualiser le travail à l'intérieur de ces petits groupes. Pour faire très simple, vous allez avoir des gens qui vont être dans le premier tiers en termes de force maximale, et ceux qui sont effectivement, on va dire, à orientation force, et dans le dernier tiers en termes de vitesse, et puis d'autres, tant mieux pour eux, ils vont être dans le premier tiers dans chacune des variables, etc. etc. Donc en fait, on se met à aller beaucoup plus loin que juste dire, on a un groupe de 30, aujourd'hui il y a musculation, tout le monde travaille la force. L'idée, c'est de sortir un peu de ce schéma-là, parce que certains ont peut-être pas vraiment besoin de travailler la force comme d'autres, et inversement, ils gagneraient à passer du temps à faire autre chose. L'idée, c'est de moduler, j'aime bien ce terme, on veut moduler une partie de l'entraînement pour mieux correspondre aux besoins de chaque joueur.
Et là-dessus, justement, tu es plus partisan du fait de privilégier le travail sur le point fort ou le point faible?
Ouais, alors c'est le grand classique, hein. C'est un débat éternel. Il y a une chose qui est certaine dans ce débat, deux choses qui sont certaines dans ce débat, c'est que par définition, un point fort, c'est une qualité qui est déjà très développée, et une des lois de l'entraînement, c'est la loi des gains qui se réduisent. Et si j'ai une qualité qui est déjà très développée, j'ai pas une marge de gain énorme à attendre de l'entraînement. Pour donner un exemple concret, si j'ai un VO2 max à 85 millimoles d'oxygène par minute par kilo, je peux m'entraîner des années, ça va être très dur de passer à 90. Donc, améliorer ses qualités, ça veut dire que, bon, on va peut-être galérer. En revanche, améliorer ses défauts, ça veut dire qu'on va très rapidement faire bouger les lignes, puisque par définition, ce sont des défauts, c'est des qualités qui manquent. Si on me diagnostique un déficit de force, un entraînement en force va très vite donner de l'effet. Donc, d'un point de vue, on va dire, psychologique, je ne dis pas qu'il faut laisser tomber les qualités, hein, il faut les maintenir, mais peut-être qu'il vaut mieux attaquer les défauts. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que
la performance sera toujours limitée par les points faibles. Il y a un dicton que j'adore qui dit « Une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. » C'est-à-dire, vous avez beau avoir toutes les qualités physiques au top du top mondial, si vous en avez une qui est vraiment pas bonne, c'est là que va être votre limitation de performance. Et donc, travailler les défauts, c'est aussi renforcer les maillons faibles de la chaîne de la performance physique. Donc, je ne dis pas qu'il faut absolument attaquer les défauts et oublier les qualités. Je dis que les lignes bougent quand on commence à attaquer les défauts. Et là, après, c'est l'alchimie du coach, hein, de bien savoir ça. Mais c'est vrai que si on se focalise tout le temps sur ses qualités, on risque d'arriver à un moment donné à être dépendant de ça. Et à être dépendant des défauts qui n'ont pas été corrigés.
J'aime beaucoup le lien avec la chaîne et le maillon faible qui limite la performance. Justement, ça, je pense que ça va tilter beaucoup de ceux qui nous écoutent, qui, dans leur entraînement, ont peut-être souvent plutôt envie de faire des séances, enfin, sont plutôt contents de faire des séances dans lesquelles ils se sentent plus à l'aise que des séances où on sait de base que ça va pas bien passer.
Et bien sûr. Bien sûr. Moi, j'étais joueur de basket à un moment donné. Si tu es joueur de basket et que tu as un tir exceptionnel, que tu es quasiment parfait et que tu as, je sais pas, je vais dire une bêtise, des changements de direction qui sont absolument pourris, oui, bien sûr, ça va te faire plaisir de rentrer 99 shoots sur 100, pas de problème. Mais c'est pas ça qui va te faire t'améliorer en tant que joueur. Te faire t'améliorer, c'est aller attaquer ce problème de changement de direction. Alors, c'est bien. Le confort, c'est bien. Mais voilà, parfois, il faut aller dans l'inconfort pour passer des paliers.
Tout l'intérêt, c'est de faire du maintien de qualité tout en réussissant à augmenter les curseurs dans les défauts qu'on a. Et donc, tu as beaucoup parlé du profit de force vitesse pour le sprint ou les sports explosifs. Est-ce que tu vois une application pour les sports d'endurance, comme que ce soit la course à pied, l'athlétisme, le cyclisme, l'aviron?
Oui, alors c'est une application, on va dire, indirecte. Il n'y a pas d'application directe dans la mesure où, par définition, dans les sports d'endurance, on n'est jamais à fond. C'est-à-dire qu'on ne produit jamais, sauf aller dans un sprint final, peut-être pour une médaille par-ci par-là, mais le cœur des sports d'endurance, ce n'est pas l'explosivité maximale. En revanche, dans les sports d'endurance, on sait qu'un critère de performance, c'est d'avoir une qualité de puissance musculaire et une qualité de force qui est relativement bonne. De plus en plus, les travaux montrent que le travail de force, par exemple, c'est une composante efficace pour le cyclisme, pour l'endurance, même le marathon. Maintenant, c'est une composante claire, le travail de force. Donc, je dirais que dans ce sens-là, ça permet peut-être de rationaliser le travail de force et d'explosivité. Mais honnêtement, je pense que c'est un critère bien moins important que dans les sports à explosivité. Donc, j'allais dire, on peut se permettre éventuellement dans les sports d'endurance de faire un travail non individualisé jusqu'à un certain point, et que peut-être un jour, si jamais on veut aller plus loin, on peut faire un profil pour essayer de voir quels sont les hyper points faibles de l'athlète.
Ouais, en plus, on sait vraiment que le travail de force, ça aide, que ce soit au niveau de l'économie de course, l'économie de pédalage.
Exactement. J'aurais presque le raisonnement inverse. Pour moi, c'est à peu près comme de dire qu'une bonne endurance globale, c'est un facteur important pour des sprinteurs. Je répondrai jamais non, mais je répondrai oui de façon indirecte pour leur permettre de tenir les séances, pour leur permettre de récupérer, etc., d'être fit, etc., etc. Mais on est clairement sur des paramètres secondaires de la performance.
Et dans le cadre plus particulièrement de l'aviron, Jérémy, il n'est pas là pour parler de ça, mais il m'a demandé justement de l'évoquer. On est quand même sur un sport d'endurance, mais qui est relativement quand même explosif et court, enfin, par rapport à la durée des épreuves, sur 2000 mètres. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt pour de l'évaluer, pour mieux connaître les cadences optimales, etc., de coups de rame à mettre?
Alors oui, il y a des travaux là-dessus. Hein. Mon collègue et ami Pierre Samosino à l'Université de Savoie a lancé des choses en collaboration avec la Fédé d'Aviron là-dessus. Il faut qu'on s'entende sur qu'est-ce qu'un effort court. 8 minutes, c'est pas un effort court. J'ai discuté l'autre fois avec un jeune footballeur qui me disait que son préparateur physique lui faisait faire de la puissance maximale, et puis en discutant, on s'apercevait qu'il faisait des côtes de 40 secondes. Non, un effort court, c'est vraiment sur des filières énergétiques, phosphocréatine, etc. C'est des choses qui durent au maximum 4-6 secondes. Donc, l'aviron, c'est un effort dans lequel il y a des actions musculaires à très haut niveau de force, mais qui sont répétées dans le temps. Chaque action est à un niveau de force très élevé, mais l'intensité globale de l'effort, par définition, elle est sous-maximale. Sinon, les gens ne feraient pas 8 minutes ou 10 minutes de suite d'effort. Donc, le profil peut être un moyen, je dirais, d'orienter le travail de puissance. C'est-à-dire que pour une même puissance, on va avoir des athlètes qui vont avoir des profils très différents, par exemple sur le membre supérieur. Et on peut peut-être se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a des profils pour une même puissance donnée sur la rame, on va dire, hein, pour simplifier, est-ce qu'il y a des puissances est-ce qu'il y a des orientations dans ce profil qui sont plus efficaces que d'autres? Ça, c'est des questions qui sont majeures, qui sont en cours d'examen, hein, notamment dans un projet qui a été financé dans le cadre de Paris 2024, pour essayer de savoir ça. Est-ce que c'est intéressant d'être orienté force? Et donc, parce que la question globale derrière, c'est comment on oriente l'entraînement? Si on s'aperçoit que c'est important d'avoir un profil orienté force pour être bon en aviron, hein, ça a des conséquences énormes en termes de préparation physique. Voilà, donc je dirais ici la même chose, on en sait beaucoup moins sur l'aviron. L'histoire des cadences optimales, c'est pareil. Une cadence correspond à une vitesse d'action musculaire et toute la question, c'est de savoir si cette vitesse d'action musculaire, c'est une vitesse, entre guillemets, optimale physiologiquement. Alors la mauvaise réponse à ça, c'est de dire bah, c'est la cadence de tous les grands champions et les champions olympiques ont cette cadence. Ça, c'est une approche de la performance sportive qui peut être très risquée parce que c'est pas parce qu'il y a des médaillés d'or qui ont adopté une certaine forme de fréquence ou une certaine gestuelle que c'est la raison pour laquelle ils ont eu la médaille d'or. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est tout l'intérêt de la recherche dans les sciences du sport, c'est de savoir si ce qui se fait et ce qui marche sur le terrain, c'est justifié biomécaniquement ou physiologiquement ou pas. Et si on peut trouver si c'est pas le cas, est-ce qu'on peut trouver un optimum qui fait du sens mécaniquement ou physiologiquement et sportivement? Et parfois, on a des surprises. Il y a des évolutions. Par exemple, j'ai un très bon exemple avec le cyclisme sur piste. L'évolution des braquets en cyclisme sur piste a été énormément influencée par de la recherche, notamment menée en France, qui a montré que certains braquets n'étaient pas mécaniquement et physiologiquement des braquets optimaux. Et ça correspond vraiment à ce qui se passe en aviron. Hein. C'est-à-dire que le braquet en cyclisme sur piste va induire une certaine fréquence de mouvement. Et si on change le braquet d'une dent ou de deux dents, on change tout ça. Et donc, voilà, les recherches se sont intéressées à ça. Donc, pour l'heure, sur l'aviron, pour résumer, on ne sait pas grand-chose, mais on a commencé à développer les outils qui vont permettre d'en savoir beaucoup plus.
D'accord. Et c'est quel genre d'outils, du coup? C'est sur rameur, par exemple, ou directement sur bateau?
Ouais, alors, il y a des mesures de force et des mesures de puissance, force et vitesse qui se passent sur le rameur. Il y a des analyses de mouvement. Sur bateau, c'est un peu plus compliqué parce que comme il n'y a pas de point fixe sur l'ensemble du bateau par rapport au milieu extérieur, c'est un peu plus compliqué de mesurer. Donc, c'est un peu toujours comme ça en sciences du sport. On commence au labo avec des outils de référence stables. Puis après, on essaye d'aller implémenter ça sur le terrain. Mais il commence à y avoir des capteurs de force qui sont placés sous les pieds des athlètes et qui permettent de savoir un peu, la vraie production ou la production de force en situation réelle. Mais là, ça demande des mesures qui sont extrêmement complexes. Pour moi, la beauté et le challenge des sciences du sport, là, ça va être d'aller mesurer des choses sur le terrain, pendant la perf. Parce que sur le terrain, ça ne veut pas forcément dire pendant la performance. Ça veut aussi dire à l'entraînement, quand les gars donnent la moitié de ce qu'ils peuvent donner. Et à l'intérieur du corps. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas mesurer correctement les productions de force musculaires à l'intérieur des muscles ou à l'intérieur du système. Donc, il reste encore des marges de progrès dans les connaissances.
Ouais, on en saura beaucoup plus à l'avenir sur ce sujet. Et pour parler un peu de vélo, de cyclisme, au niveau des cadences de pédalage préférentielles d'un sportif, par exemple, quelqu'un qui va être tout le temps en moyenne plus proche des 80 et un autre qui va être plus proche de 90, 95, 100. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a un qui a un profil plutôt orienté force et l'autre vitesse, par exemple?
Alors, Ça c'est ce qu'on observe bien. Il y a eu des travaux, notamment en France, par un ami qui s'appelle Sylvain Dorel, sur la piste, c'est-à-dire sur, encore une fois, les efforts d'explosivité maximale, les efforts où on produit sa puissance maximale. Où là, effectivement, ce qu'on appelle la cadence optimale, c'est-à-dire la fréquence de pédalage à laquelle on produit sa puissance max, elle est liée à l'orientation du profil des athlètes. Et donc, quand on connaît ça, on peut orienter un peu mieux le réglage de la machine, d'une part, et éventuellement l'entraînement. Sur la route, en revanche, on est sur des efforts, c'est comme pour l'aviron, qui ne sont pas des efforts à puissance maximale. C'est-à-dire quand un athlète sur route est à 300 watts et qui pédale, je sais pas, à 90 rotations par minute, on n'est pas sur du sprint. Il pourrait être capable de produire beaucoup plus en termes de puissance. Donc, on est plus sur une fréquence qui permet d'optimiser essentiellement trois choses. La consommation globale physiologique du corps. Et vous savez très bien que si on pédale à intensité trop, à vitesse trop haute ou trop basse, ben on sort d'une forme de zone optimale. L'aspect sensation. Il y a des coureurs qui ont de bonnes sensations quand ils sont à 110 RPM et de mauvaises sensations quand ils sont à 90. Donc, ils règlent une forme de fréquence préférée en termes de sensation. Et le niveau de force avec lequel on appuie sur les pédales. Parce que, vous le savez, hein, plus on pédale vite, moins on applique de force sur la pédale, et inversement. Et donc, en termes de fatigue musculaire, choisir un profil ou l'autre, ça va induire des efforts très différents pour le muscle et pour le système cardiovasculaire. Donc en fait, il n'y a pas un... Comment dire, la recherche n'a pas donné de fréquence optimale définitive. Genre, je ne sais pas, j'ai une bêtise, 115. 115, ça optimise tout, merci, au revoir. Parce que sinon... Tous les coureurs du peloton se mettraient à 115 et puis ils régleraient les braquets pour être à 115 tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, on s'aperçoit que suivant la fréquence qu'on choisit, on va optimiser plutôt une des parties. Parfois, on va se mettre à une fréquence qui est bonne physiologiquement et qui ne nous donne pas des bonnes sensations. Parfois, on va favoriser ces sensations, quitte à dépenser un peu trop d'énergie. Et parfois, on va essayer de préserver la force musculaire pour ne pas produire trop de force sur la pédale et risquer une fatigue ou une perte de performance. Donc voilà, en termes de cyclisme sur route ou d'efforts d'endurance, on a différents curseurs sur lesquels on peut jouer. Et encore une fois, il n'y a absolument pas... C'est-à-dire, quand je l'ai vécu en tant que cycliste, l'entraîneur qui voit le Tour de France, qui voit les mecs à 90 et qui dit « tout le monde à 90 », c'est quelqu'un qui fait une erreur. Parce que 90, ce sera très bon pour certains, pas du tout pour d'autres. Donc il faut quand même aussi essayer de... C'est comme pour la course à pied. Il y a une forme de théorème qui n'a jamais été vraiment prouvé, qui dit la fréquence idéale, c'est 180 pas par minute. Quand on mesure les championnats du monde de 100 km et qu'on regarde les fréquences auxquelles courent les différents champions, donc c'est quand même des gens qui sont très bons, on s'aperçoit que 180, il n'y a quasiment personne. Il y a des gens qui sont au-dessus, il y a des gens qui sont en dessous, il y a énormément de variabilité. Mais ce fameux chiffre central, c'est une moyenne. Et la moyenne, parfois, ça ne veut pas dire grand-chose.
Oui, ça va aussi dépendre de l'intensité, etc.
Ça dépend d'énormément de choses, ouais.
Justement, tu parlais du fait de dire un entraîneur qui va dire tous à 90 parce qu'il a vu que sur le Tour de France, ils étaient tous à 90. Mais c'est également un problème que je trouve qu'on peut voir dans la littérature au niveau des études faites dans le vélo, enfin celles que j'ai pu participer en tant que sujet ou dans les TP faits à la fac. Souvent, on standardise à 80 ou 85 RPM, mais... Là, je peux parler dans mon cas personnellement où à 80-85 RPM, je suis pas du tout confortable et justement, je fatigue plus vite. Donc, je trouve que ça induit un biais supplémentaire au lieu de le supprimer, justement.
Complètement. Alors, en fait, ça, c'est un... Je l'ai peut-être même fait, moi, à un moment donné, mais c'est quelque chose que j'ai vu faire énormément par mes collègues qui étudient la fatigue, par exemple. Il y a à la fois une très bonne raison et une chose qu'on oublie. La très bonne raison, c'est que quand on fait un protocole scientifique, l'idée, c'est de contrôler le plus de variables possible pour voir l'effet d'une seule de ces variables. Donc ça, c'est la règle d'or de la science expérimentale. Donc ça veut dire que si je veux contrôler, je ne sais pas, je dis une bêtise, l'effet de la durée sur la production de lactate, voilà. Je dois avoir que la durée qui change entre mes athlètes ou entre mes conditions. Et si j'ai la durée et que je leur laisse à chacun choisir leur fréquence, j'ai deux variables qui vont jouer, c'est la durée et la fréquence. Et donc, en fait, pour normaliser et mettre plus de rigueur dans le protocole scientifique, on met tout le monde à la même fréquence. Mais là où ça a effectivement une conséquence négative, c'est que, en effet, dans la réalité, cette fréquence qu'on a choisie, elle va très probablement être favorable pour certains athlètes, pas favorable pour d'autres. Et donc, en fait, le souhait qu'on a de corriger un biais va peut-être générer un autre biais, qui est que à 80 ou 85, je vais générer de la fatigue que je n'aurais peut-être pas générée à 90 ou à 100, à cause de ça. Et donc, en fait, c'est quasiment insoluble, puisque si je décide de laisser quelque chose libre, je crée un autre biais. Donc, en fait, en science, on essaye de choisir entre le plus limité des biais. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que quand j'ai le choix de la fréquence et que ce que je veux individualiser, normaliser, c'est la puissance, si je veux mettre tous mes athlètes à 200 watts et que je peux choisir la fréquence, il faut que je sache que différentes fréquences, il y a eu des travaux qui ont montré ça, vont induire différents types de fatigue. Donc pour faire 200 watts, si je demande aux gens de pédaler à 70 ou à 110, je vais induire justement des conditions force-vitesse très différentes. Il y a des travaux, notamment à mon labo, là, qui ont montré dans les 3 dernières années que ça induisait des niveaux de fatigue différents pour un même niveau de puissance. Donc ça, c'est clair que c'est une des variables à creuser à l'avenir. Par exemple, en course à pied, c'est assez souvent qu'on fixe tout le monde à 12 km/h pour mesurer un truc. Et effectivement, il y a des gens qui seraient beaucoup plus à l'aise physiologiquement à 13 ou à 14. Et courir lentement, c'est comme marcher lentement. Certaines personnes dépensent beaucoup plus d'énergie à courir ou à marcher plus lentement que leur vitesse optimale. Donc en fait, on fait comme souvent en science, hein. On choisit entre la moins pire des solutions.
Et du coup, cette différence de cadence préférentielle, est-ce qu'elle peut nous indiquer, par exemple, un déficit de force, enfin le fait que le facteur limitant de l'athlète serait musculaire, par exemple?
Eh bien ça, c'est une hypothèse très claire de travaux qui sont en cours. C'est-à-dire, on trouve la cadence optimale pour un groupe de cyclistes. Et on essaye de voir si ceux qui ont la cadence optimale basse sont plutôt des gens. L'hypothèse, c'est que ceux qui auraient la cadence optimale la plus basse, donc les gros braquets et beaucoup de force sur la pédale, c'est ça que ça veut dire, hein, sont plutôt des gens à orientation force dans le profil quand on le mesure lors d'un test de sprint avec explosivité. Et vice versa. Ceux qui auraient tendance à avoir une fréquence élevée, c'est plutôt des gens qui sont à l'aise dans les exercices où ils ne produisent pas beaucoup de force, mais ils produisent beaucoup de vitesse. Et peut-être que ça se voit dans leur profil en sprint. Donc là, ça c'est aussi des travaux en cours. Ça fait du sens, l'hypothèse fait du sens. Peut-être qu'on ne trouvera pas du tout ça. Mais en tout cas, clairement, on le voit même sur le Tour de France, les cyclistes qui sont à l'aise et qui sont efficients énergétiquement en emmenant un gros braquet, c'est-à-dire en pédalant lentement, donc en appuyant fort sur la pédale, c'est toujours le force-vitesse, c'est toujours lié. Hein. C'est probablement des gens qui ont un profil orienté force et donc une puissance maximale à vitesse de pédalage basse.
Et justement, c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on... Enfin, Jérémy n'est pas là, mais c'est quelque chose qu'on retrouve justement à l'opposé chez tous les deux, avec lui un profil plutôt orienté force. Et par exemple, même sur une sortie de 5 heures, une moyenne de cadence autour de 80 ou en dessous de 85. Et sur moi, ça va plutôt être 95, 97.
Et là, c'est clair que si on vous fait faire la sortie en inversant vos fréquences de pédalage et que vous êtes tous les deux à la même vitesse, cette sortie, elle va vous laisser des traces, mais elle va être beaucoup plus contraignante pour vous deux. Donc, voilà, c'est ça le truc, c'est de dire l'organisation individuelle qu'on a par rapport à la force et à la vitesse pour un même niveau de puissance. C'est-à-dire que vous faites la même sortie, vous avez le même niveau de puissance moyenne. Et l'induit des organisations différentes.
Tout l'intérêt de s'intéresser aux sensations et à la perception de chaque individu.
Oui, c'est sûr que c'est le challenge de ce qu'on propose. C'est un peu plus, je ne dis pas une individualisation totale, ce serait débile parce qu'il n'y a pas qu'un seul critère à prendre en compte dans la performance, mais un souci d'individualisation un peu plus marqué.
Et puis une individualisation totale serait trop compliquée à mettre en place à une grande échelle aussi.
Oui, en plus. Là, on a parfois des critiques à nos travaux qui disent « Bon, tout ça, c'est trop complexe. Pourquoi on s'embête ? Faisons faire de la puissance max à tout le monde et puis ça ira très bien. » Je partage l'avis dans certains contextes, quand on n'a pas le temps d'aller dans le détail puis qu'on a surtout des gens d'un moins bon niveau de performance. Oui, bien sûr, faites de la force, faites de la puissance et puis globalement, ça va bien se passer. Mais le terme « globalement » veut dire en moyenne pour le groupe, mais la moyenne du groupe, ce n'est pas une notion de sport de performance. La notion du sport de performance, c'est chaque athlète, chacun, chacune, pas la moyenne. Si dans ma moyenne qui augmente de 3% sur une variable, j'ai un tiers des athlètes qui se détériorent, je suis désolé, mais je ne peux pas cacher sous la moyenne qui augmente le fait qu'un tiers de mes athlètes, ça ne fonctionne pas ce que je leur propose. Un entraîneur de haut niveau, il veut que chacun et chacune de ses athlètes s'améliore.
C'est un beau mot de la fin, du coup. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu as pu m'accorder pour cet entretien. C'était vraiment super productif. Et
avec plaisir.
Je pense que tous ceux qui nous écoutent ont appris pas mal de choses au niveau de la biomécanique, du profilage force-vitesse et puis aussi ton parcours universitaire qui est quand même assez intéressant.
Cool, merci à vous.
Du coup, je te souhaite une bonne fin de journée.
De même, à bientôt.